5, 4, 3, 2, 1.
Et voilà qu'arrive l'équipe de Lilith Martin et les autres sur la piste d'atterrissage.
Mais quel moment incroyable!
Ça fait 10 ans qu'elles prennent les ondes hertziennes.
Elles nous arrivent tout droit de Radio Canu.
Toute la galaxie qui ne capte pas le 102.2. Enfin, vous pouvez les écouter sur nos ondes!
Lilith, réveille-toi là. Lilith, c'est 17h. Lilith, c'est 17h. C'est l'émission féministe. Faut qu'on prenne le micro.
Un enfant, si je veux, quand je veux.
Ça m'évoque un grand progrès pour la femme.
Ça m'évoque un peu mon avis.
Si elle a envie d'avorter, elle avorte. Si elle a envie de le garder, de l'assumer jusqu'au bout, elle l'assume.
Dans les années 60, les choses et les difficultés et les problèmes pour les femmes qui ne voudraient pas faire à terme le bébé, et c'était très dangereux.
Moi, je trouve que c'est normal que cela soit encadré.
Si y a un accident, je pourrais avoir la possibilité d'y avoir recours et c'est quelque chose qui me rassure.
Si demain ça m'arrivait, je pense que je me tournerais vers... personnellement vers mon médecin.
Moi, chez les gynécologues.
À l'hôpital, ou quitte à venir carrément au planning familial et d'expliquer la situation.
Donc j'ai vécu 3 IVG à 3 moments bien distincts. À l'adolescence, quand j'étais aussi une jeune femme sans profession, en cours de formation, dans une relation de couple qui commençait. Et puis un troisième, lorsque j'étais mère de 2 enfants. Donc ça m'a permis de voir 3 contextes bien différents, mais à chaque fois j'ai été confrontée à des obstacles. Et surtout, ces 3 événements m'ont permis de faire tout un cheminement et de passer de l'IVG comme un événement qui était délicat, à quelque chose, un choix qu'aujourd'hui je peux assumer. Voilà.
Ok, et ben moi, c'était un matin, je reviens de vacances, je retourne au travail. Et une des jeunes qui est présente au petit-déj, elle me dit: mais toi, t'es bizarre, il t'arrive un truc, je suis sûre que toi aussi t'es enceinte et tu vas bientôt partir. Alors bon, bah moi j'avais quand même déjà un doute, genre rapport à risque, retard de règles, mal au sein, tous les petits signes qu'on prend bien soin de pas analyser par moment. Mais là, du coup, obligée, je fais un test et il est positif. J'attends le retour de mes colocs pour picoler et je commence par me mettre déjà une petite cuite. Après, je préviens mon copain, on en discute tous les deux et la suite, elle est assez évidente. Je me heurte et prends conscience au fur et à mesure des étapes du parcours de la combattante que reste encore l'IVG. Mais tout se passe globalement bien, je suis sereine, décidée, accompagnée, soutenue, je ne suis pas traumatisée. Finalement, tout est allé très vite. J'avais rendez-vous au planning pour me faire poser un stérilet. J'en profite, j'y vais, j'annonce mon souhait d'interrompre ma grossesse et du coup de repousser mon rendez-vous pour mon stérilet. Tout s'enchaîne et je me retrouve à domicile pour prendre mon petit cachet qui provoque la fausse couche. Et là, je vais pas mentir, j'ai quand même méga douillé. Mais j'ai regardé OSS 117 et j'ai aussi un peu rigolé. Alors oui, j'ai fait une IVG, mais je vais bien, merci.
Moi, je suis une femme qui a jamais voulu avoir d'enfant. Du coup, savoir que le droit à l'IVG existait, que j'avais cette possibilité, ben, je pense que ça a été super important dans ma sexualité, tout simplement. Et puis, par ailleurs, ben, il se trouve que j'ai été pendant 15 ans conseillère au planning familial et du coup, j'ai accompagné des centaines de femmes dans ces démarches d'interruption de grossesse. Et ben, j'ai mesuré combien c'était un droit vraiment fondamental.
Alors moi, j'ai jamais eu recours à l'IVG personnellement, pas parce que je suis plus précautionneuse qu'une autre avec ma pilule, mais je pense que je suis passée à travers les gouttes, littéralement. Et que du coup, c'est pareil, je suis concernée par le non-désir d'enfant, et je me dis qu'un jour, si j'en avais besoin, et ben, au moins j'aurais l'IVG, et que du coup, je considère que c'est un droit fondamental à disposer de son corps et à gérer sa sexualité au même titre que la contraception.
Du coup, moi, je voulais partager un moment un peu fondateur sur l'IVG qui s'est passé au planning familial. Donc, j'étais encore en observation. Je suis animatrice de prévention au planning 69. Et là, on reçoit une jeune femme, en fait, avec son enfant en bas âge. Et elle est enceinte et elle vient pour faire des démarches pour une IVG pour des raisons qui lui appartiennent. Après un long entretien où on échange sur son histoire, sur ses démarches, où elle questionne la conseillère. Il y a son enfant qui commence un petit peu à remuer, comme je suis en observation, je m'occupe de lui pour les laisser continuer un petit peu l'entretien. Et en fait, quand on finit de prendre les rendez-vous pour cette dame, les échographies, les rendez-vous avec l'hôpital, il y a une grande émotion, on sent qu'elle est soulagée, que c'est ouf, c'est bon, là c'est un truc qui se met en place. Et à ce moment-là, il y a son petit qui ne marchait pas, qui va faire ses premiers pas pour aller voir sa mère. Et du coup, pour moi, ça a été un moment assez symbolique de me dire que là, en fait, on accompagnait vraiment les femmes dans leur choix de vie et qu'on les accompagnait dans leur liberté.
Plusieurs fois, j'apprends que des amis proches ont eu recours à l'IVG. La plupart me racontent cet épisode de leur vie en baissant la voix, mal à l'aise, triste ou en colère parce qu'elles se sont senties seules, mal comprises par leurs compagnons ou par les professionnels médicaux. Je leur demande à chaque fois surprise, mais pourquoi tu m'as rien dit ? Je t'aurais accompagnée, j'aurais été là pour toi. Elles me répondent, tu sais, c'est pas si facile à dire.
1956, création du mouvement Maternité Heureuse. 1961, premier planning familial.
Le premier centre français de planning familial, dit aussi de Maternité Heureuse, s'est ouvert à Grenoble en présence de nombreux médecins et personnalités françaises et internationales.
Une fondatrice se souvient de cette époque où l'on osait à peine se renseigner sur la contraception.
Ah, ce que nous avions à offrir était uniquement le diaphragme et la crème spermicide. Eh bien, nous allions les chercher avec des sacs à double fond pour les cacher, soit dans des ourlets de jupe et soit surtout dans les pneus de secours de la voiture. Pour la contraception, nous avons évidemment vécu dans l'illégalité, mais pour l'avortement encore plus, eh bien, nous étions très craintives. Et vous savez qu'autour de moi, souvent, je n'osais pas dire que j'étais au planning familial.
1970.
Ces femmes, ces couples, réunis dans cette salle d'attente, sont quelques-uns des 100 000 adhérents des 252 centres du mouvement français pour le planning familial répartis dans toute la France. Le planning familial a de nombreuses activités. C'est ainsi, par exemple, que des conseillers d'information sexuelle et des médecins du collège médical du planning familial répondent à toutes les demandes de conférences et d'animations de groupe. Les assistantes, comme ici, sont chargées de recevoir et d'informer chacun, qu'il soit jeune ou moins jeune, marié ou non.
1981.
On pense souvent que le planning familial n'est qu'un distributeur à pilules.
Non, bien sûr que non, car la contraception, ça n'est qu'un moyen. Et ça ne suffit pas. Ce que nous cherchons à faire avancer, c'est l'évolution des mentalités, que les femmes puissent prendre leur réelle autonomie face à leur fécondité et face à leur sexualité.
Bah moi, du coup, ça fait 25 ans que je suis au planning familial de Villeurbanne. J'y suis rentrée, j'étais étudiante, on avait un collectif antisexiste et on allait au planning pour participer à des réunions unitaires sur l'IVG, déjà, par exemple. Et puis, je suis rentrée dans l'asso, j'ai fait 10 ans dans l'asso pour bien connaître l'association. J'ai été au conseil d'administration, j'ai été aussi au CA confédéral, parce que c'est un mouvement, donc on allait aussi à des réunions à Paris. Et puis au bout d'un moment, je suis devenue conseillère, donc j'y ai travaillé. Et là, j'ai arrêté d'y travailler. Je suis redevenue militante de base. Et parce qu'il y a plein de choses à faire au planning, finalement, qu'on soit salarié, qu'on soit militante. Il y a une certaine dynamique, il y a une réflexion. Et si j'y suis restée tout ce temps, c'est que c'est une asso qui me plaît bien, où je rencontre plein de super filles, notamment. qu'on travaille en intergénérationnel, qu'il y a toujours... voilà, un certain dynamisme militant et beaucoup de... voilà, toujours dans la réflexion.
Alors moi je suis rentrée je suis rentrée en 2012 pour la première fois au planning familial. Après avoir migré, je suis partie de ma Haute-Savoie natale notamment pour m'engager un peu plus dans le milieu associatif. Et lors de ma préparation au concours d'assistante sociale, j'ai vu qu'il y avait une formation pour accompagnatrice de mineurs en demande d'IVG, parce qu'il faut qu'une mineure soit accompagnée d'une personne majeure pour sa démarche d'IVG. Du coup, c'est à ce moment-là que j'ai rencontré donc Valérie du planning, et que j'ai pris connaissance du planning familial. Et puis depuis 2015, maintenant je suis salariée au planning familial.
Donc ma première rencontre avec le planning familial, j'avais 16 ans, lors d'une grossesse non désirée. Et j'étais accompagnée donc de ma mère, et parce que nous vivions à la campagne, j'avais pas de moyens de locomotion, l'antenne la plus proche était à 50 km. Et il fallait aussi pour une IVG que j'ai l'accord d'un adulte. Et ce moment à part m'a permis de franchir une première fois la porte donc, du planning familial et ensuite d'y revenir pour prendre de l'information. Et aussi, c'était un lieu où je savais qu'on pouvait échanger sans être jugé.
Alors, ma rencontre avec le planning familial, elle date du master en sociologie sur le genre que j'ai fait à Toulouse. Et je devais, dans ce cadre, trouver un lieu de stage. Je voulais travailler à la fois sur le corps, sur les savoirs, les pouvoirs, l'intimité, le féminisme, l'égalité fille-garçon. Et en fait, je voyais pas trop où je pouvais aller. Mais une prof m'a dit de façon tout à fait logique, mais au planning ? Ben oui, bien sûr. Moi, je pense que j'en avais une image un peu vieillotte. Mais pour le coup, j'y suis rentrée en service civique, donc dans le planning familial du Tarn. Et j'y ai rencontré des personnes formidables, féministes, parfois en colère, qui s'engageaient à plein de niveaux différents. Et du coup, j'y suis restée 6 mois. J'ai ensuite fait du bénévolat à l'AD des Hautes-Pyrénées. Et ensuite, j'ai été recrutée comme animatrice de prévention au PF 69, où je suis depuis 2 ans.
Et pour moi, c'est une rencontre un peu plus récente. J'ai décidé un jour, un peu comme ça, d'aller voir ce qui se tramait dans cette association féministe. Qui sont un peu ces femmes qui y travaillent et qu'est-ce qu'elles font ? Est-ce qu'elles travaillent ? Est-ce qu'elles ne travaillent pas ? Est-ce qu'elles sont bénévoles ? Comment elles fonctionnent, cette association villeurbanaise autogérée ? Enfin, tout ça. Et du coup, j'ai eu quelques réponses lors d'une soirée associative qui est organisée en soirée, justement, par le planning familial, dans laquelle on peut rencontrer du coup, les personnes qui font vivre cet assaut. Du coup, ça a germé dans ma tête. Et puis après, je me suis dit, mais tiens, pourquoi moi ? J'y travaillerai pas non plus. Alors voilà, j'ai rencontré le planning, je me suis formée au planning et maintenant je travaille au planning. Alors je connais pas encore tous ces petits défauts au planning, ça fait pas assez longtemps. Mais pour le moment, je peux dire que c'est quand même une belle rencontre.
Et moi, la première fois que je suis allée au planning, c'était donc ma première année de fac. Une copine qui m'a dit, mais viens, elles sont trop sympas. Elles donnent des pilules sans ordonnance. Alors du coup, j'y suis allée, mais après, j'ai quand même eu des consultations avec des gynécos. Et depuis, je vais faire tout mon suivi là-bas en passant par l'IVG il y a quelques années. Et puis maintenant, mon suivi de grossesse.
Mon corps peut sauter, courir et danser, il s'élance dans les airs et retombe sur ses pieds. Ton corps peut jouer à tout ce qui lui plaît, mais il te dit ce qui lui déplaît. Mon corps c'est mon corps, ce n'est pas le tien. Tu as ton corps à toi, laisse-moi le mien. C'est mon corps, ce n'est pas le tien. Tu as ton corps à toi, laisse-moi le mien.
Mien. Cette chanson, je l'ai entendue de mes 7 ans à mes 11 ans pendant le cours d'éducation à la sexualité. Une fois par an, l'infirmière de l'école nous passait cette vidéo réalisée par des Québécois. Pour aborder le sujet, elle n'avait que cette VHS venue d'outre-Atlantique, très bien faite certes, mais déjà old school à cette époque. Hein. Tous les gamins de la vidéo portent des salopettes années 80. Donc je vous jure, vraiment que ça, que ce matériel. Et en plus, cette vidéo se focalise sur les abus sexuels. Donc voilà, pour moi, l'éducation à la sexualité, c'était les abus sexuels. Point. Le plaisir, la relation amoureuse, la contraception, je n'en ai pas entendu parler avant le lycée. Dans le milieu scolaire.
Alors, moi, ça a commencé aussi avec cette VHS.
Je pense que ça a marqué une génération
complètement.
D'enfants.
Ouais. Mais ça ne s'est pas arrêté à la VHS. On a eu ensuite...
Des goodies ?
Oui. Non, ça aurait pu. On a eu ensuite, alors je ne sais plus si c'était avant ou après, mais lorsque j'étais en CM1 ou CM2, je ne me souviens plus très bien, on a eu des cours ensuite en mixité et en non-mixité, donc garçon, et puis après garçon-fille, et puis garçon à côté. Enfin, fille, j'oublie les filles. Sur la puberté, sur c'est quoi les règles, sur du coup comment on fait quand on a ses règles, etc. Mais quand même avec en background la question des abus sexuels et bon malgré tout on parlait du consentement, mais il y avait quand même ce prisme de l'abus sexuel et du monsieur avec l'anorak beige.
Eh ben moi j'ai rien eu de tout ça. Par contre, voilà, la seule fois où on en a parlé dans notre scolarité, je me souviens qu'on nous avait bien montré le schéma avec le cycle de 28 jours et l'ovulation au 14e jour. Et ça m'a pas apporté grand chose à part de faire des calculs qui étaient pas du tout adaptés et finir enceinte à un moment où je le souhaitais pas, quand j'étais mal informée. Voilà. Sinon, au niveau de la contraception, c'est plutôt dans les médias avec les années SIDA que j'ai entendu parler, voilà, du préservatif et puis des informations par le planning familial. Et sinon, voilà, au niveau de l'éducation à la sexualité. Après, aujourd'hui, je suis maman d'adolescents, donc c'est vrai que je me pose la question, voilà, comment permettre un espace de dialogue sans faire intrusion non plus dans l'intimité, tout en informant et puis insistant sur les notions de plaisir, de respect de chacun.
Quand je regarde un peu comment j'ai fait, comment j'ai bidouillé mon éducation à la sexualité, je me rends compte, comme beaucoup, que j'ai fait un apprentissage des mots du sexe avec l'école, le collège, et surtout sur le ton de la vanne, des insultes, qui en faisait quelque chose aussi de transgressif. Alors il y a eu aussi les dessins animés, les films, la littérature, Internet. Et oui, Internet, ça commençait. Les potes, les copains, les copines. Il y a dû aussi avoir des messages des parents, mais j'en ai pas vraiment de souvenirs. Et il y avait surtout les copains, les copines plus âgés et bienveillants qui nous apprenaient un peu les choses de la vie. Et étonnamment aussi, j'ai beaucoup arpenté les magazines féminins. J'avais l'impression de grappiller des connaissances un peu interdites, de collectionner des mots qui disent le sexe, qui parlent de plaisir. Avec le recul, c'était bourré d'injonctions très cis-centrées et très hétéronormées, mais ça, c'est quand même, voilà, ça a été un outil que j'ai bien utilisé. Et ensuite, comme je pense tout le monde, l'expérience, un apprentissage commun avec des partenaires, plus surtout un débriefing avec les potes.
Aujourd'hui, c'est la mode, on se croit obligé d'apprendre aux gens comment s'aimer.
Martine et les autres n'est pas tout à fait d'accord avec Julie Bataille qui chante en 1975 « Pas besoin d'éducation sexuelle ». Nous pensons au contraire qu'il faut continuer d'en parler, notamment pour prévenir les grossesses non désirées ou accompagner une personne qui a recours à l'avortement. Et pour en discuter aujourd'hui, nous sommes plusieurs dans les studios, vous l'aurez compris. Il y a Valérie, Léa, Marine du planning familial, salut.
Salut.
Et nous recevons également Nathalie Caron, salut.
Salut.
Alors, tu as écrit un livre intitulé « Une femme sur trois », publié en 2015 aux éditions Les Passionnés de bouquins. Et dans cet ouvrage, tu pars d'un témoignage personnel à propos de l'IVG pour aller vers une réflexion plus générale sur le droit de choisir en France aujourd'hui. Comment t'es passée de l'envie ou du besoin de témoigner à l'écriture d'un livre ?
J'avais écrit un premier livre déjà qui alliait un témoignage à travers des courriers d'une femme, mais qui abordait un sujet historique. Et suite à ce premier livre, après, je me suis sentie légitime pour me connecter à des sujets que j'avais vraiment à cœur. Et parmi ces sujets, il y a le droit à l'avortement, puisque j'y suis sensible depuis très longtemps. J'avais eu une première IVG à l'adolescence qui m'avait permis de voir les avancées, mais surtout les obstacles que les femmes peuvent rencontrer encore aujourd'hui. Et si ces obstacles n'existaient plus, j'aurais pas écrit sur le sujet. Et en fait, je trouve incroyable que ça n'ait toujours pas évolué. Et à travers un témoignage, c'est aussi l'occasion de déconstruire les idées reçues sur le sujet, parce qu'on entend un grand nombre de choses qui peuvent être très, très éloignées de la réalité des femmes, et notamment de la part de personnes qui le font uniquement pour des raisons idéologiques. Voilà, et comme c'est un sujet qui est aussi relativement tabou, je voulais donner la parole aux femmes et apporter un support pour libérer cette parole.
Ok. Est-ce que, alors je vais lire un petit extrait de ton livre. La trajectoire qu'elle avait empruntée l'avait plongée dans une réalité singulière de l'IVG. Elle en retenait des rencontres multiples, des pratiques disparates et des contextes changeants. Son histoire lui apparaissait désormais avec clarté, et cela n'avait pas toujours été le cas. Elle l'amenait à pointer du doigt ce qui avait favorisé la douleur de la culpabilité et ce qui, au contraire, avait permis d'assumer. D'une part, le jugement, le silence, une loi inaboutie. De l'autre, la parole, l'empathie et la justesse d'une relation d'aide. Elle était touchée par le contexte actuel qui faisait écho aux difficultés qu'elle avait pu rencontrer. L'avortement, s'il était légalisé, n'était pas toujours légitimé. Elle constatait que le tabou de l'IVG restait criant. L'avortement restait un événement intime, souvent gardé sous silence. Pourtant, l'acte, nullement répréhensible, concernait en France une femme sur trois. Alors dans le livre, on l'entend là dans ce passage, tu utilises la troisième personne du singulier. Alors moi j'étais un peu surprise, tu dis elle, mais on sent quand même que c'est un témoignage personnel. Pourquoi ce choix ?
Alors, en fait, je voulais témoigner du parcours d'une femme, mais d'une femme parmi d'autres. Pour moi, c'est aussi une manière de mettre à distance mon histoire et d'amener du matériau pour documenter la diversité des vécus sur l'IVG. Ça m'aurait intéressé de recueillir le témoignage d'autres femmes, mais en fait, mon propre parcours m'avait permis de voir vraiment un grand nombre d'obstacles et puis aussi de faire un cheminement. Alors, comme d'un côté, je me considère comme actrice... puisque ça s'est passé avec mon intériorité, l'intimité, donc je peux vraiment parler du ressenti. Et en même temps, je suis vraiment témoin aussi d'un contexte de ce qui amène des freins et de ce qui facilite. Donc voilà, je voulais vraiment amener un témoignage neutre et factuel.
Et tu utilises aussi dans ton livre des faits historiques, dates, définitions, rappels des lois, à ton récit personnel. Est-ce que c'est aussi justement une manière de faire de la mise à distance, ou pourquoi ce choix ?
Alors j'ai choisi d'inscrire le témoignage dans une histoire plus large, celle de l'histoire des droits des femmes, parce que notre réalité de femme aujourd'hui, elle est indissociable des luttes qui ont été menées pour nos droits. Et personnellement, je n'avais pas eu de transmission à ce niveau-là. Dans mon cursus scolaire, dans les cours d'histoire ou au niveau familial, j'avais pas eu de... les thématiques des droits des femmes n'avaient pas été évoquées. Et c'est en m'informant sur ces droits que j'ai pu vraiment me rendre compte à quel point il était important d'être vigilant et que j'ai ressenti la nécessité de les préserver une fois que j'ai compris le sens. Donc j'ai voulu rappeler la réalité des femmes avant 1975 avec les avortements clandestins, parce que ça montre que la problématique des grossesses non désirées et que les avortements ont toujours existé, et qu'une femme déterminée à avorter le fera par tous les moyens, quitte à se mettre en danger. J'ai aussi voulu rappeler que la loi Veil, c'est une loi qui protège la santé des femmes, qui permet un choix individuel en sécurité avec l'aide du corps médical. Et donc ce choix n'a pas à être discuté et concerne toujours la femme en dernier lieu et qui s'inscrit dans un cadre de loi. Et aussi, pour moi, c'est important de rappeler l'histoire des droits des femmes dans le sens où on s'inscrit dans la spécificité d'être née dans le corps d'une femme, parce que c'est ce corps qui nous donne la possibilité d'être enceinte. Et cette possibilité, ça peut être une joie, mais ça peut être vraiment, ça peut donner la trouille, ça peut être une vraie galère, ça peut être l'horreur, et même si on utilise un moyen de contraception qui n'est pas infaillible. Donc voilà, pour moi, ces dimensions-là sont importantes, et rappeler les combats, c'est aussi remercier et rendre hommage à celles et ceux qui se sont battus, et aussi avoir conscience qu'il est important qu'on poursuive dans cette voie-là.
Oui, puis surtout, c'est justement pas ces personnes-là qui sont dans les livres, les manuels d'histoire. Hein.
Exactement.
Donc c'est pas mal aussi de les mettre en lumière, en fait, aussi. Mm-hmm. Et alors, une petite question très précise. Pour qui as-tu écrit ce livre ?
Eh bien, pour tout le monde. Non, aussi bien pour des hommes, pour des femmes, à partir de l'adolescence, il peut se lire. Que ce soit des personnes qui soient directement concernées ou qui se sentent concernées par le sujet, parce qu'on l'est tous plus ou moins du fait de connaître quelqu'un qui a eu une IVG, ou qu'on soit un homme ou une femme. Aussi pour les personnes qui ont eu une IVG, qui pourront reconnaître des aspects de leur parcours, qui peuvent aussi trouver des pistes pour sortir de la culpabilité pour celles qui en ressentent, et aussi pour, avec l'idée de s'inscrire dans une histoire plus globale. Ça peut être aussi pour des personnes qui sont curieuses de comprendre le choix de l'IVG, de comprendre l'intimité d'une femme. Il m'est arrivé aussi de le vendre à des personnes qui étaient a priori contre l'avortement. Donc voilà, ça peut leur apporter un autre éclairage. Et puis, c'est un livre qui est documenté, donc c'est vraiment, il peut aider à déconstruire des idées reçues et voilà, aussi s'intéresser à une dimension globale qui allie le témoignage, le côté historique et une analyse de la situation actuelle en France au niveau européen et international.
Et tu as eu des retours de personnes qui ont lu ton livre justement ?
Oui, en fait, je suis souvent en dédicace, donc déjà, ça permet des échanges et éventuellement de laisser mes coordonnées. Donc, oui, récemment, j'ai reçu, par exemple, le courrier d'une jeune fille qui, c'était une de ses amies qui lui avait acheté le livre parce qu'elle savait qu'elle traversait une IVG. Et le livre l'a beaucoup aidée, d'après son retour. Aussi, lors d'un ciné-débat, j'ai eu un retour d'une femme qui avait vu un documentaire qu'on avait projeté avec aussi une discussion avec le planning familial. Et une femme avait été enceinte quelques temps après, et ce qu'elle avait entendu lors du ciné-débat, en fait, l'a beaucoup aidée à faire les bons choix, aussi à se préparer à ce qu'elle pouvait être à quoi elle pouvait être confrontée, et aussi à inscrire son choix dans une autre dimension, plus globale. Donc c'est touchant, en fait, de voir que l'échange, en effet, peut se faire et que ça peut aussi être un livre qui peut aider dans certains moments.
Oui, c'est ça. Bah, tu l'as dit au début, c'est aussi un livre pour la parole, en fait. Donc, toi, tu amènes ta parole, mais l'idée, c'est aussi qu'il y ait du répondant, quoi, derrière. Quoi.
Voilà, et puis c'est un livre qui se passe, en fait, ouais, entre différentes personnes et qui peut être sujet à discussion. Donc, c'est vraiment cette idée-là et ça me fait très plaisir quand je vois que c'est le cas.
Et pour ouvrir un peu plus, justement, sur la dimension plus historique ou politique, est-ce que toi, t'avais vraiment un message politique que tu souhaitais transmettre à travers ce livre ?
Eh ben, je trouve important de voir aussi ce droit à l'avortement, bon, déjà comme un choix individuel, mais aussi comme un droit fondamental à consolider et à préserver. C'est le droit à disposer de son corps, mais aussi de choisir quand est-ce qu'on veut être parent ou de ne pas le devenir. Pour moi, c'est aussi être responsable. C'est vraiment prendre conscience de qu'est-ce que c'est qu'être parent. Est-ce qu'on est prêt à l'assumer ? C'est une parentalité responsable qui est choisie à ce moment-là. C'est aussi le droit qui conditionne tous les autres droits pour l'égalité homme-femme. Donc je trouve intéressant aussi de le voir comme quelque chose de fondamental, puisque si on est assujetté à notre fécondité, on ne peut pas accéder aux autres droits de l'égalité qui amènent l'égalité homme-femme. Voilà, donc pour moi, c'est important qu'au niveau politique, il y ait une réelle volonté pour préserver ce droit en France, l'harmoniser au niveau européen et aussi le rendre accessible au niveau international. Voilà.
Et alors tu l'as dit un peu en introduction, ton lien avec le planning familial, mais est-ce que tu pourrais nous en parler un peu plus ? Quel est ton lien et est-ce qu'il a évolué aussi peut-être au cours de l'écriture du livre ou après ?
Donc le planning familial, par mon parcours, était une structure, des rencontres avec des professionnels, des militantes et des militants importants à différents moments de ma vie. Aujourd'hui, c'est un mouvement que j'ai envie de soutenir, donc je suis simplement adhérente. Et à la suite de la publication du livre, on est amené à faire des interventions communes, notamment sous forme de ciné-débat avec des réalisateurs, les réalisateurs du documentaire IVG 40 ans après, souvent.
D'accord, donc tu fais aussi une sorte de collaboration avec le planning aujourd'hui.
Oui, voilà, souvent on est là pour des. On est ensemble avec Valérie notamment. Et puis Marine, pour des échanges avec le public sur ces thèmes-là.
Ah oui. Et tu utilises ton livre aussi comme déclencheur ?
Alors, j'aime bien qu'il y ait une projection de documentaire, parce qu'au moins, avec le public, on a une base commune de discussion. Et c'est pour ça qu'on travaille souvent avec les films du Zèbre, puisque eux, dans leur documentaire, donnent aussi la parole aux femmes et aux professionnels qui les accompagnent. Donc on est dans la même démarche.
D'accord, bah, voilà. Merci beaucoup. Alors on peut voir tout ce programme sur, j'imagine, le site internet du planning familial. Non, pas forcément. Ou toi, est-ce que tu transmets les infos?
Sur ma page Facebook.
Très bien. Et tu peux nous donner le nom de ta page Facebook?
Donc, Nathalie Caron Lancel.
Voilà. Donc, l'auteur du livre Une femme sur trois, qu'on peut trouver où à Lyon?
Partout où l'éditeur le distribue, donc dans toutes les bonnes librairies, Fnac, Cultura, aussi.
Ça va, c'est des grosses librairies,
quoi. Okay. Oui, c'est le travail de diffuseur d'un éditeur, et aussi on peut le commander directement sur le site de l'éditeur, Les Passionnés de Bouquins.
Ok, on se souviendra du nom. Merci beaucoup Nathalie.
Merci.
Wouldn't it be nice if we had an amendment to give civil rights to women? To once and for all just really lay it down from the point of view of women. I know what you're thinking, that's just redundant. Chicks got it good now, they can almost be president. But it's worker against worker, time and time again. 'Cause the rich use certain issues as a tool. And when I say we need the ERA, it ain't 'cause I'm a fool. It's 'cause without it nobody can get away with anything. You don't have to go far, like just over to Canada, to feel a heightened sense of live and let live. What is it about Americans? Like so many pit bulls trained to attack and to never give. We gotta put down abortion, central to the civil rights of women. Make diversity legal, make it finally understood through the civil rights of women. And if you don't like abortion, don't have an abortion, and teach your children how they them. But don't treat all women like they are your children. Compassion has many faces, many names. And if men can kill and be decorated instead of blame, then a woman called upon the mother can choose to refrain. And contrary to of old time religion, your body's your only true dominion. Nature is not here to serve you, or at any cost to preserve you. That's just some preacher man's old time opinion. Life is sacred, will still take you to their breath.
Vous venez d'entendre Annie Di Franco. Nous sommes toujours sur Radio Canu dans l'élite Martine et les autres. Annie Di Franco est une chanteuse féministe qui milite à travers ses chansons pour le droit à la diversité, le droit de choisir, le droit à l'avortement. Et il y a en France une association qui agit pour les mêmes objectifs, c'est notre bon vieux planning familial.
Et donc on a de la chance puisqu'on a trois personnes qui représentent le planning familial aujourd'hui dans les studios. On est trop contentes. Et donc du coup, bah, peut-être est-ce que l'une de vous peut nous présenter un petit peu le planning, nous dire qu'est-ce que c'est, comment ça s'est créé, c'est quoi les missions, est-ce qu'il a évolué, est-ce qu'il a les mêmes missions qu'au début, ou du coup est-ce qu'il y a eu une évolution? Voilà, un peu tout ça, de la vie
du
planning.
Eh bien oui, allons-y. Donc c'est une vieille asso, puisqu'elle est née en 56 et elle s'appelait à l'époque Maternité Heureuse,
oui.
un programme. Et l'idée, en fait, il faut se replonger dans les années 50, la chape de plomb, l'accès à la contraception est très compliqué, puisque c'est interdit d'en parler, la loi interdit toute information, les médecins ne sont pas formés pour informer les femmes, etc. Donc il y a la naissance de cette association au départ dans l'idée de faire évoluer la loi, de faire émerger cette problématique dans le débat public, de faire pression, de mobiliser, etc. Et assez rapidement, enfin en tout cas au bout de quelques années de meetings, de travail auprès des députés, etc., il y a des permanences qui ouvrent un petit peu partout en France en disant mais on va aller directement à la rencontre des gens, leur expliquer toutes ces méthodes qui existe quand on ne veut pas d'une grossesse, parler de sexualité, etc. Donc un petit peu partout sont nées ces permanences qui étaient à la fois clandestines dans le sens où c'était illégal, mais c'était en même temps connu de tous dans l'idée de on brave la loi pour montrer qu'elle est caduque, qu'il faut qu'elle évolue. Donc il y a vraiment cette stratégie-là. Et puis, je ne vais pas vous faire tout l'historique, mais ça veut dire que c'était... finalement une fonction, un métier qui n'existait pas, mais petit à petit les gens ont acquis des savoirs. C'était des bénévoles au départ qui petit à petit ont constitué un certain nombre de connaissances, se sont formés. Donc dès le départ, il y avait cette idée aussi d'éducation populaire, c'est-à-dire se former pour aider d'autres personnes, d'autres couples à se protéger, à avoir des infos, et puis savoir comment au-delà de la contraception, on s'est rendu compte que les gens, ils avaient des questions sur la sexualité, parce qu'il y avait vraiment énormément de tabous autour de ces questions-là. Ils se posaient des questions sur les relations, sur le couple. Donc c'était aborder toutes ces questions-là et essayer d'y réfléchir en tant que professionnel aussi, comment accueillir au mieux ces demandes. Et du coup, petit à petit, il y a eu la loi, suite à des luttes, évidemment. Il y a eu aussi la renaissance d'un mouvement féministe dans les années 70. Donc c'est à ce moment-là que le planning familial... suite à des scissions internes et des luttes, mais pareil, je vous raconterai pas, c'est une histoire passionnante, je vous conseille de lire pour connaître tous ces épisodes, mais en gros, le planning est devenu féministe, qui n'était pas au départ dans les années 50. Il a milité pour le droit à l'IVG aussi, et puis il a connu avec la légalisation de la contraception, la création des centres de planification, finalement son activité qui existait déjà, finalement, qui était de recevoir des personnes pour les informer, elle a été légalisée, plus ou moins institutionnalisée aussi, il faut bien le dire. Il y a eu des financements, donc c'est aujourd'hui une association qui existe dans un peu plus de 70 départements, avec des formes très différentes d'un endroit à l'autre, des fois c'est juste quelques bénévoles et une petite permanence par semaine, et puis à Lyon, à Villeurbanne, on a quand même un gros centre, il y a une vingtaine de salariés, des consultations médicales tous les jours, on reçoit à peu près 9000 personnes par an, donc c'est quand même une grosse structure. Et aujourd'hui, les missions d'un planning familial, au niveau professionnel en tout cas, ce pourquoi on a des financements, c'est les entretiens justement, où des personnes viennent en disant « bonjour, je veux de l'info, bonjour, j'ai un rapport non protégé, je viens chercher une pilule du lendemain ». Voilà, toutes ces questions autour de sexualité, relations, violences éventuellement. C'est aussi un lieu où on peut parler des violences conjugales, des violences sexuelles. Donc c'est un lieu d'écoute dans ces entretiens, écoute et information. Ça peut être aussi plus particulièrement des entretiens un peu plus longs, un peu plus suivis, qu'on appelle des entretiens de conseil conjugal, qu'on soit en couple ou pas, mais vraiment sur la dimension relationnelle dans une relation. Il y a toute une autre activité, c'est les consultations médicales. On en a parlé un petit peu tout à l'heure. Donc on a des médecins ou sages-femmes qui font tout ce qui est gynéco, contraception, dépistage et traitement des infections sexuellement transmissibles. Tout ce qui concerne aussi les suivis de grossesse. Et puis aussi des IVG médicamenteuses. Donc depuis 2007, on pratique des IVG au planning familial. Il y a donc tout cet aspect, je vais vite sur les consultations, mais vous me complétez. Et aussi tout l'aspect éducation à la sexualité, donc avec des actions collectives en milieu scolaire, mais aussi dans d'autres structures où il y a des jeunes, mais aussi des adultes, parfois notamment dans le champ du handicap. Donc je vais être très rapidement, c'est aussi un organisme de formation, donc on propose des formations à la fois pour les professionnels qui sont au contact des jeunes notamment, mais c'est aussi des formations parfois internes sur des personnes qui militent avec nous et qui veulent se former un petit peu à nos thématiques. Et on a aussi un centre de documentation qui est super bien, qui est, voilà, qui est ouvert tous les jours sauf le mercredi, et on peut trouver plein d'infos et être aidé par la documentaliste dans ses recherches aussi. Donc ça, c'est pour résumer un petit peu le côté pro, tout ce qu'on propose. Et puis le planning, il reste aussi une association militante. Donc pour terminer, c'est vrai qu'on a aussi toute une activité dans le champ politique finalement, que ça peut être des manifs, ça peut être des campagnes sur tel ou tel thème, ça peut être des communiqués de presse, organiser des débats, dessiner des débats, des bars féministes, un blog, enfin voilà, c'est essayer de communiquer autour des thématiques féministes, voilà, pour résumer.
Ok, on s'ennuie pas quoi.
On peut dire ça.
Ok, et donc du coup, on en a parlé, c'est un peu la thématique de l'émission autour de l'IVG. Du coup, est-ce que vous pouvez peut-être alors globalement, rapidement, faire un peu un état des lieux de l'accès à l'IVG en France? Nathalie, t'en as un peu parlé, on a un peu parlé comme ça, mais peut-être du coup de ce que vous voyez vous au quotidien. Et du coup, est-ce que en France, ailleurs, comment c'est aujourd'hui l'IVG quoi?
Alors, dans l'ensemble, la loi va dans le sens du respect de l'accès à l'IVG, c'est-à-dire que les articles de loi favorisent, par exemple, alors je ne voudrais pas sortir l'article de loi là de mémoire, mais en 2007, début 2017, les centres de santé sont autorisés à pratiquer l'IVG instrumental, sans forcément donc, qu'il y ait de bloc opératoire. Les sages-femmes peuvent pratiquer les IVG par médicament en ville, les médecins pouvaient déjà le faire, mais donc les sages-femmes sont maintenant autorisés à faire de la gynéco et donc pratiquer les IVG par médicament, ce qui favorise énormément l'accès en fait et ce qui permet de démédicaliser d'une certaine façon, en tout cas de sortir de l'hôpital pour pratiquer l'IVG par médicament et donc à terme aussi pour pratiquer l'IVG par aspiration aussi, si les centres de santé peuvent s'y mettre. Dans l'ensemble, la loi va donc dans le sens du droit à l'IVG. Voilà. Pour autant, on se rend compte qu'il y a quand même d'énormes freins sur le territoire. Alors nous, on a quand même la chance d'être sur le territoire du Rhône, et donc d'avoir 4 hospices civils, des cliniques mutualistes, des sages-femmes, des médecins qui pratiquent. Pour autant, on se rend compte qu'il faut quand même s'entourer de médecins dits ressources, médecins ou sages-femmes, qu'on a dû mettre en place un partenariat parce qu'en fait, il est difficile, malgré le cadre légal, de faire respecter la loi. C'est-à-dire qu'on est encore maintenant en train de négocier pour que, alors c'est pas tous les jours, on va dire c'est tous les deux jours, pour négocier avec les professionnels pour que la personne puisse pratiquer l'IVG comme elle le souhaite. Alors ça peut passer par exemple par une anesthésie générale ou une anesthésie locale, par médicament ou par aspiration. C'est-à-dire que même si la loi permet aux femmes de pratiquer l'IVG et tend à promouvoir leur choix, eh ben, la pratique médicale est différente. C'est-à-dire que nous, on est sur un champ politique où on va participer à la promotion du droit des femmes. Pour autant, on se rend compte que que les hôpitaux, alors la tarification à l'acte en fait partie, le financement des hôpitaux est compliqué, et donc dégager un bloc opératoire, c'est difficile pour les équipes. Les personnels dans les centres IVG ne sont pas forcément formés ou ne sont pas forcément volontaires. Donc, il y a la théorie, puis il y a la pratique en fait, qui diverge.
Mais concrètement, ça veut dire aussi qu'il y a des médecins qui refusent de pratiquer l'avortement ?
Oui, alors il y a alors je ne sais plus exactement le terme, mais c'est...
La clause de conscience.
La clause de conscience, c'est ça, c'est qu'ils peuvent... alors, normalement, dans la loi, là aussi mes collègues, je regarde, si jamais je me trompe, vous me dites, c'est-à-dire qu'un médecin peut refuser de pratiquer l'IVG, mais il est normalement tenu d'orienter. Parce qu'on voilà, on n'est pas en Italie, où en Italie c'est non, je ne le ferai pas, et puis alors en plus, voilà, point. Là, normalement, ils sont tenus d'orienter, mais on se rend compte qu'à terme, il y a peut-être l'orientation, mais juste avant, il y a aussi l'argument moral qui prévaut, et donc...
Ok, merci pour ce petit panel, et du coup, ça permet de se rendre compte Pour... Ah, pardon, il y a une question. Il y a une question en studio.
Oui, moi j'ai une petite question. Je me pose toujours la question de est-ce que planning familial et CPEF, c'est la même chose ?
Oui, c'est vrai que ça vaut le coup d'éclaircir, parce que en gros, nous, le planning familial, on gère un CPEF, donc un centre de planification et d'éducation familiale. C'est le dispositif qui a été mis en place par la loi, justement, pour que les mineurs puissent venir gratuitement, pour que des personnes qui n'aient pas de sécu puissent venir aussi sans avoir à payer, etc. Donc, ça fait partie de ces structures. Mais il y a plein de CPEF qui n'appartiennent pas au planning familial. Donc, si on regarde juste, par exemple, pour prendre l'exemple du Rhône, il y a une vingtaine de centres de planification et il y en a une bonne partie qui dépendent directement de la métropole aujourd'hui, ou on appelle ça le conseil général avant. Donc c'est des personnels qui appartiennent à la fonction publique territoriale, et il y en a qui dépendent directement de l'hôpital, et il y en a qui peuvent dépendre aussi d'autres associations. Donc c'est vrai qu'on est la seule, en tout cas sur localement, qui se réclame aussi du féminisme et qui est aussi une association militante et qui va se battre aussi pour l'accès aux droits sur ces questions. Même si dans la pratique, on peut avoir pas mal de points en commun avec un certain nombre de collègues et des points de convergence. On travaille ensemble sur certaines choses. Mais voilà, pour autant, on a quand même cette particularité.
Merci. Et au planning familial, donc, on fait aussi de l'éducation à la sexualité, un peu le deuxième grand thème de cette émission. Mais du coup, quand on est au planning et qu'on fait de l'éducation à la sexualité, mais qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui ?
Bonne question.
Est-ce qu'on regarde encore des VHS avec des Québécois ?
Mais oui, bien sûr. Mais non, c'est faux. Nous ne regardons pas ça. Elles sont vachement plus stylées, les petites vidéos qu'on leur montre. On fait de l'éducation à la sexualité et je me suis remise un petit peu dans le cadre légal pour savoir, mais en fait, dans quel cadre on intervient. Et du coup, c'est une loi de 2001, la loi Aubry, qui oblige normalement une information et une éducation à la sexualité qui doit être dispensée dans les écoles, les collèges et les lycées, donc en fait à chaque niveau de classe, sur au moins 3 séances dans l'année. Donc comment dire qu'entre la théorie et la pratique, on est bien loin de ce qui est préconisé. Au niveau du planning de la D69, on est sur de l'animation collective dans les collèges, notamment de Villeurbanne. On a aussi tout un dispositif qui travaille sur l'Ouest lyonnais. On intervient dans les collèges, dans les lycées, dans les maisons familiales et rurales. Et il y a aussi des collègues qui travaillent avec des établissements qui vont accueillir des personnes en situation de handicap. Et il y a quelques actions ponctuelles dans les centres d'hébergement et de réinsertion sociale ou de foyers d'aide sociale à l'enfance. Donc voilà un petit peu où on intervient. Après, sur qu'est-ce qu'on y fait ? Non, malheureusement, on ne montre pas de vidéos vintage. On a de super et de merveilleux outils d'éducation populaire. Après, chaque séance est un peu ciselée en fonction du groupe, en fonction des thématiques. Voilà, on peut avoir une certaine latitude un petit peu pour adapter la séance au groupe. Sur qu'est-ce qu'on y travaille, les thématiques sont hyper larges. On peut y travailler la puberté, le rapport au corps, la contraception, faire des séances qui sont un petit peu classiques sur de la prévention. Donc c'est quoi la contraception, quel est l'éventail des contraceptifs, la prévention, donc sur la question des infections sexuellement transmissibles, du VIH, mais aussi des grossesses non désirées, donc la question de l'IVG. Mais on parle beaucoup beaucoup des relations, des relations à soi, des relations aux autres, dans le cadre familial, mais dans le cadre scolaire, dans le cadre avec les amis, dans le cadre amoureux, dans le cadre affectif, dans le cadre sexuel. Bref, on parle de beaucoup, beaucoup de choses.
Et ça vient de questions, de questionnements vraiment des adolescents.
Ouais.
Ça s'est fait comme ça parce que vous vous êtes rendu compte qu'ils avaient beaucoup de questions par rapport à ça ?
Bah, en fait, là, il faudrait peut-être repartir un petit peu de façon historique, mais sur des séances classiques d'information et de prévention. Je crois qu'on s'est rendu compte qu'il y avait quelque chose aussi à creuser sur, le consentement dans les relations. Qu'est-ce qui fait qu'il y a des choses du social qui font bugger un petit peu pourquoi on a les informations et qu'en fait on ne les met pas en pratique. Du coup, il y a aussi cette démarche de réduction des risques, de cheminer un peu avec les personnes. Voilà, vous en êtes où ? Qu'est-ce que vous avez comme information ? Et qu'est-ce que vous pouvez ou pas mettre en place ? Et si vous ne pouvez pas le mettre, où est-ce que vous trouvez les ressources pour ensuite venir un petit peu débroussailler tout ça ? Donc... En termes de thématiques, juste, il y a aussi encore la question des violences, de l'orientation amoureuse, de l'orientation sexuelle, des identités de genre. Donc il y a plein de choses. Et c'est vraiment en fait un espace-temps aussi qui permet une libération de la parole. on peut poser ces questions, c'est des sujets qui peuvent être tabous, mais là c'est vraiment possible de poser, d'ouvrir la discussion, d'entendre les positionnements des uns, des unes, des autres, d'avoir un débat, de s'entendre parfois qu'on n'est pas d'accord, et parfois tout simplement juste de replacer un espace-temps où c'est possible de dire quelque chose, ben, parfois c'est gagné, même si on n'a pas élargi tout l'éventail des thématiques. Donc voilà, je ne sais pas si vous voulez des petites perles qui sont
je crois qu'il y avait une question.
Vous séparez les filles et les garçons ?
Eh bien, ça peut... ça peut arriver. Parfois, c'est pensé en non-mixité, notamment sur les collèges, par exemple avec les quatrièmes, où là, il va y avoir des questions sur le corps, sur la puberté, les changements. Et ça peut être aussi pensé un petit peu plus tard, si du coup, c'est compliqué au niveau des groupes. Si on sent qu'il y a des grosses tensions, relations filles-garçons, ça peut être posé comme principe. On va faire d'abord de la non-mixité et ensuite peut-être de la mixité. Donc ça, c'est vraiment aussi à voir en fonction des séances.
C'est plutôt du cas par cas, quoi.
C'est plutôt du cas par cas. Okay. Alors après, il y a un cadre aussi, ça dépend de où on intervient. Il y a des habitudes de travail avec les établissements, mais voilà.
Vous vous adaptez.
Oui, j'ai très envie de donner ma petite perle.
Vas-y.
De la semaine dernière.
Ta perle de la semaine.
Parce qu'on a expliqué les cycles, l'ovulation, la fécondation. Et donc je disais qu'un ovule peut rencontrer des spermatozoïdes, mais en fait ça ne va pas le faire, ça ne va pas matcher, ils ne vont pas se plaire. Et du coup, j'ai vu que ça a cliqué dans les têtes et qu'ils m'ont dit « Bah oui, pareil, l'ovule a pas, ça dit « Je m'en fous, je suis lesbienne !» Et donc j'ai trouvé ça trop drôle, comment ils se réappropriaient un petit peu tout ça et comment ils arrivaient à en faire des blagues. On apprend aussi qu'un cœur bleu, c'est de la friendzone. Ah donc ouais. Attention, si vous recevez un cœur bleu, c'est...
J'ai rien compris, moi.
Si on reçoit un cœur bleu au lieu d'un cœur rouge dans les SMS,
ah, oui, d'accord.
C'est la catastrophe.
Ça veut dire je t'aime bien, mais, voilà. Mais sans pas plus, sexuellement.
On reste amis, quoi. Exactement. Donc voilà, on se met aussi à la page et on évolue avec eux.
Ok, bah merci. Alors il est assez tard du coup avant de se quitter. Est-ce que juste rapidement vous pouvez nous dire en fait plutôt comment on peut faire pour vous rejoindre ou ça, la prochaine date ou voilà.
Ben, c'est vrai que c'est une association donc on peut, à laquelle on peut participer en tant que militant, militante. C'est ouvert aux garçons, mais il n'y en a pas beaucoup, il faut bien le dire. Du coup, il y a les réunions de Super Féministes, qui est un des espaces militants du planning, dont on peut suivre l'actualité, notamment à travers un blog. Donc, ça permet de voir un petit peu, de se renseigner pour connaître un peu nos prises de position, nos actions. Donc, c'est... voilà. Il s'appelle Super Féministe. Et puis, on organise des soirées associatives, justement, pour mieux connaître ce qu'on fait au sein du planning. Parce qu'il y a plusieurs espaces pour militer. Il y a Super Féministe, il y a des groupes de travail sur des thèmes, il y a le conseil d'administration. Et puis, on peut participer ponctuellement aussi à un débat, à un bar féministe, on fait des stands, on fait des petites formations. Donc, c'est vrai qu'il y a vraiment plein d'activités différentes. Donc, pour nous suivre, il y a en tout cas la prochaine date qui est prévue, c'est un peu loin, c'est le 29 mai, la prochaine soirée associative. Mais entre-temps, vous pouvez prendre contact à travers le mail du planning, en regardant le blog Super Féministe, si vous voulez qu'on se rencontre, en savoir un peu plus, et puis connaître nos actus aussi.
Eh bien, merci beaucoup. Merci à Léa, Valérie, Marie et Nathalie d'avoir témoigné aujourd'hui sur ces sujets essentiels des luttes féministes. Et on vous laisse avec Ode to the Clito de Dorian Electra.